de l'acteur politique qu'on est aujourd'hui de la jeunesse.
Oui, très rapidement. Je ne vois pas de distinction formelle à faire entre le capitalisme pour beaucoup et le capitalisme pour tous ou pour personne. Je veux dire, le point clé, c'est de savoir si on continue à accepter le processus général de concentration du capital entre les mains d'une oligarchie mondialisée, dont de surcroît les hommes politiques de tous les pays sont en réalité les serviteurs. De ce point de vue-là, il n'y a pas tellement de différence, en fin de compte, entre les sociétés démocratiques et les autres sur ce point fondamental, qui est que l'organisation économique dans son ensemble doit être conservée pour ce qu'elle est. Et de sorte qu'on assiste même au paradoxe parfois de l'efficacité du régime despotique et de la paralysie du régime démocratique. Donc, finalement, il s'agit bien de réorganiser la lutte frontale entre une vision associative et collective de l'économie, des rapports sociaux et de la décision politique, et puis une sorte de tentative d'amélioration interne du régime représentatif tel qu'il existe. Deuxièmement, sur l'économie sociale et solidaire, ça fait partie là, d'une chose dont on n'a pas discuté, en effet, et la troisième question aussi. Et quelle est la situation en termes de conscience collective et de mouvement? Parce que bien entendu, une alternative effective à la situation actuelle ne naîtra pas de façon purement idéale. Il faudra qu'elle s'articule à des acteurs politiques réels, à des actions massives, à des déterminations collectives, à des organisations nouvelles. C'est absolument certain. Marx lui-même était peut-être avant tout aussi un militant politique, quelqu'un qui voulait construire une alternative. Quelqu'un qui explorait les données du mouvement ouvrier dans les différents pays, etc. Ça, c'est une tâche qui est devant nous, qui est la tâche de la jonction entre la reformulation d'une hypothèse stratégique qui serait en partage pour tout le monde et qui serait discutable par tout le monde, et puis le système ramifié, divers, des interventions locales, des mouvements, de la conscience de ces mouvements, exactement comme Marx disait qu'il s'agissait de fusionner d'une certaine façon ce qui venait de la philosophie allemande, du mouvement général de l'émancipation, de la pensée de ce qu'était une économie nouvelle, et puis le mouvement réel, le mouvement irréel qui se produisait notamment à ses yeux en France à cette époque. Donc, les deux questions me paraissent ne faire qu'un, c'est-à-dire que les gens font des choses existent. Mais je pense, comme Marcel Bouchet, que la perspective stratégique est en partie affaiblie à cause, en fait, de l'expérience du XXe siècle, que tant que cette perspective stratégique ne sera pas non plus elle-même travaillée, partagée, discutée, divisée, même, peu importe, il y aura quelque chose dans les mouvements qui restera sporadique, passionnant, enthousiasmant, mais aussi n'altérant pas de manière essentielle le processus fondamental de capitalisation de l'humanité tout entière, de domination par le marché et d'asservissement, y compris des technologies nouvelles, par la logique du profit.
Merci Rousseau. Oui. Alors, sur le capitalisme de beaucoup, une simple observation, c'est qu'à de certains égards, nous y sommes déjà. Par le fait que une grande partie du capital qui circule, qui s'investit, qui se promène sur les marchés financiers, est le produit d'une capitalisation sociale, ô combien, celle des régimes de retraite. Une des données troublantes du capitalisme d'aujourd'hui, c'est que parmi les plus grands opérateurs financiers du globe, vous avez les fonds de pension, qui regroupe tout simplement l'argent avec lequel on va payer les retraites de classes d'âge de plus en plus nombreuses. Il y a déjà une socialisation extrêmement importante du capital. Alors les économistes se battent entre eux sur son estimation, mais nous sommes déjà dans un système assez paradoxal, on en a souligné le paradoxe, puisque ces fonds investis en vue du paiement des retraites futures, servent à persuader pour nous des travailleurs même qui cotisent pour leur retraite future. C'est une donnée assez troublante du monde dans lequel nous sommes et à l'intérieur de laquelle il conviendrait de mettre un peu de lumière. Sur le reste, je rejoins le propos d'Alain Badiou. Je crois, ce qui me frappe, ou en vrai, pour ne pas répéter ce qu'il a dit, avec lequel je suis substantiellement d'accord, ce qui me frappe, c'est combien peu ces mouvements, ou de citoyens, ou ces expériences d'économie qu'on appelle sociale et solidaire, ça c'est une dénomination française, on l'appelle ailleurs autrement, peu importe, ce qui me frappe, c'est combien peu les leçons accumulées dans ces mouvements remontent précisément. Ce qui était le travail qu'au XIXe siècle, la littérature socialiste, tous les auteurs nombreux qui ont contribué à ce mouvement savaient faire. Nous avons affaire à une foule d'expérimentations qui restent isolées, ponctuelles, et dont aucune leçon partageable ne se dégage, pour ainsi dire. C'est très étrange comme cette atomisation et cette absence de capitalisation au sens banal du terme, consistant à faire du débriefing et de la aujourd'hui en tirer des leçons de portée générale. Rien de tout ça n'a lieu. Voilà ce qui m'interroge, et moi, ça va plus loin, j'ai l'impression dans beaucoup de cas qu'il y a une sorte de refus de la part même des acteurs de ces mouvements de raisonner dans cette perspective. Il y a une sorte de spontanéisme, comme on disait dans une époque antérieure, qui empêche le passage à une réflexion ouvrant une perspective d'avenir. Comme si, au fond, c'était l'expérience du présent qui comptait, au regard de quoi une leçon générale n'avait pas lieu d'être dite.
Merci, Gauchet. C'est un point, excusez-moi, sur lequel je voudrais l'un et l'autre très rapidement vous interroger, parce que vous êtes l'un et l'autre d'accord. Je voudrais vous demander, pour compenser, que la politique est quelque chose, une dimension philosophique de l'existence et essentielle. Or, Marx disait, qui faisait cher à l'un et à l'autre, Marx disait que les Français sont le peuple le plus politique. Mais justement, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre un temps où nous ne croyons plus à la politique? Vous voudrez l'un et l'autre vous entendre là-dessus, parce que me semble que c'est un des rares points sur lesquels vous êtes en accord, c'est-à-dire que la politique est une dimension essentielle, donc on ne peut pas se passer, on ne sait pas pourquoi, et est-ce qu'elle n'est pas en train, pour le moment, de perdre du crédit comme simplement possibilité dans l'esprit?
Et moi, je pense que la crise de la politique relève de ce que j'ai tenté de dire avant, c'est-à-dire la politique a été en France particulièrement présente et active, notamment à partir du XVIIIe siècle, en réalité. Ce qui a fait de la France une patrie politique. Et c'était quoi? C'était parce que naissait, à travers l'idéologie des Lumières, à travers les écrits de Rousseau, etc., naissait la conscience diffuse et collective d'une alternative radicale à l'ordre monarchique et féodal existant. Donc, on ne peut enthousiasmer les gens, et notamment la jeunesse, que si, d'une certaine façon, ce qui va être fait, ce qu'ils vont décider de faire, les rassemblements qui vont être les leurs, etc., est porteur, à leurs propres yeux et aux yeux de tout le monde, d'une sorte de vision, d'hypothèse stratégique. C'est que ce n'est pas simplement l'indignation sur tel ou tel point qui est nécessaire, qui est requise, mais quelque chose qui place tout ça sur un horizon général, qui serait l'horizon d'une sortie. Il y a quelque chose qui va nous sortir de l'univers existant et non pas simplement le contester, le rectifier, l'aménager, peut-être même, comme aujourd'hui, en occuper quelques places, mais qui indiquerait réellement une logique de sortie. Je pense que tant que ceci ne sera pas restitué, la politique sera confondue avec la gestion. Voilà. Il n'y aura pas de distinction véritable entre politique et gestion, avec l'idée que la gestion peut être plus ou moins bonne, plus ou moins juste, plus ou moins injuste, mais que, à proprement parler, le souffle politique lui fait défaut, et le spectacle que nous donne la politique aujourd'hui n'est pas fait pour nous donner beaucoup de souffle.
C'est le chef, c'est bon.
Oui. Eh bien, quand on ne croit plus à la politique, on souffre de ne plus y croire. Et c'est ce qui se passe pour la France aujourd'hui. C'est le malaise français, il est là. Parce que, quelle est la raison pour laquelle la politique est une dimension constitutive de l'existence, au moins pour une humanité moderne. On a pu penser pendant longtemps autrement dans notre histoire humaine. Parce que dans la politique s'exprime la possibilité d'un pouvoir sur sa propre existence. Ce pouvoir sur sa propre existence, il s'exprime aussi bien dans le comportement moral. Mais le comportement moral ne vous donne que la maîtrise de votre propre vie. Politique, c'est je peux avoir du pouvoir sur ma vie avec les autres. Ben, je ne vois pas comment nous pourrions renoncer à cela sans nous renier nous-mêmes. Et je ne vois pas comment, ne croyant plus à cela, on pourrait s'en satisfaire, en tout cas très longtemps. C'est pourquoi je pense que, même si la politique va très mal aujourd'hui, c'est une éclipse, c'est une crise, c'est une maladie, en quelque sorte, de ces expressions, mais qui n'affecte pas sa substance profonde. Elle restera une dimension de l'existence.
C'est un point sur lequel, et c'est remarquable, je suis d'accord avec vous.
Nous allons conclure là-dessus. Remercie de nous avoir invités à ce podcast. Et je vous remercie de voir la. Merci à vous.